bonjour à tous, il est 9h, mardi 19 mars 2019, c'est le début des voies de service, bienvenue avec nous sur Canal M, je ne suis pas seul, je suis avec Côme dans le studio, bonjour Côme.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va barre, pas de chute particulière, ah là, non, tout va très bien.
Vous n'allez plus tellement pouvoir vous pratiquer dans les semaines qui viennent a priori, parce que c'est le retour du printemps.
Nous avançons pas.
Bon très bien, je suis un peu optimiste peut-être alors. Et Yves Olivier n'est pas encore là, je le soupçonne d'être en train de profiter de ce soleil justement quelque part. Si vous le voyez dans la rue, eh bien dites-lui que l'émission a commencé, envoyez-le nous. En attendant, eh bien, nous avons plein de sujets pour vous. Quels sont-ils de votre côté, Côme?
Eh bien, ils sont divers mais peu variés.
Ah.
Non, on va parler un petit peu du tableau de Mendeleïev, ses origines.
Mm-hmm.
On va aussi parler de deux types d'anxiété, l'anxiété des maths et l'éco-anxiété, qui sont la deuxième est moins connu que la première quand
oui,
même.
Effectivement,
ça m'évoque expérimenté par pas mal de monde. Et puis on verra si on a le temps de parler du reste, des légumes pour la soupe et des extraterrestres. Voilà.
Quand même assez varié, mine de rien, parce que soupe et extraterrestre, il faut faire le lien. De mon côté, on n'avait pas eu le temps de parler la semaine dernière de cette chèvre élue maire dans le Vermont. Eh bien, nous en parlerons aujourd'hui. Également de feux de circulation pour piétons qui sont un peu trop sur leur téléphone intelligent. Ben oui, problème de notre époque, solution de notre époque. Et également d'autres insolites. On parlera d'un renard qui a essayé de rentrer dans un poulailler en France. Et ben, il n'est plus de ce monde. Les poules s'en sont occupées. Tout ne se passe pas comme dans les livres parfois. Et on vous raconte tout ça ce matin dans les voies de service. C'est parti.
Et donc allons-y, commençons sur un sujet un petit peu compliqué peut-être, mais c'est pas grave, moi j'aime bien ça, je trouve ça intéressant. C'est comment est né le tableau de classification des éléments de Mendeleïev.
Mm-hmm.
Parce qu'on l'a tous vu, il nous a tous fait très peur, mm-hmm. Moi le premier effectivement.
On s'y est tous cassé les dents en essayant de la
finalement, prendre par cœur. Voilà, mais finalement c'est pas si bête que ça effectivement. Donc la classification périodique des éléments ressemble à un clavier de piano, dont les tonalités se répètent. Toujours espacés régulièrement. Par exemple, le lithium, le sodium et le potassium ont des propriétés très similaires, comme trois la d'un instrument de musique. Ils sont très réactifs à l'eau, se coupent au couteau, etc. Pour le philosophe des sciences Eric Seri de l'Université de Californie à Los Angeles, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev a eu une intuition géniale en présentant sa méthode de classification inédite devant la Société russe de chimie il y a tout juste 150 ans, le 6 mars 1869. Ce professeur à l'université de Saint-Pétersbourg avait choisi de classer chaque élément chimique dans un tableau, en fonction de sa masse atomique. Il avait alors observé que les colonnes correspondaient à des propriétés chimiques récurrentes, sans pour autant savoir que c'était dû à l'organisation des électrons. Donc on le rappelle rapidement, un noyau atomique, un atome est composé d'électrons, neutrons et protons qui forment le noyau. C'est juste un petit rappel pour la suite. Et pour cause, donc, ces particules, les électrons, ne seront découvertes qu'en 1897. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucune découverte postérieure, telle la mécanique quantique, la relativité d'Einstein, n'a jamais remis en question son idée, poursuit le philosophe. Et quand, en 1913, le physicien britannique Henry Moseley établit le numéro atomique Z, qui définit le nombre de protons dans un noyau, seuls deux éléments, le cobalt et l'iode, verront leur position modifiée dans cette table qui reste la référence utilisée à travers le monde et qui comprend désormais 118 éléments. Une âpre compétition entre cinq laboratoires dans le monde se fait. À partir de 1934 et la découverte de la radioactivité artificielle, le tableau, qui comptait 63 éléments lors de sa conception, va rapidement se remplir. Des centaines de formes de noyaux connus et des dizaines de noyaux artificiels sont alors synthétisés. Car à partir du numéro atomique 95, l'américium, les noyaux sont trop instables pour exister dans la nature. Au total, 24 éléments ont ainsi été créés, jusqu'au numéro 118, nommé l'Oganesson, nommé en hommage au russe Yuri Oganessian, le plus prolifique des découvreurs d'éléments dits super lourds. Ceux dont le numéro atomique dépasse en gros les 104. À 85 ans, il est toujours le directeur scientifique du laboratoire Flerov des réactions nucléaires à Doubna, en Russie. L'un des cinq laboratoires au monde capables d'en produire avec le centre de recherche des ions lourds de Darmstadt en Allemagne, le Riken Avaco au Japon et le centre de Livermore et Berkeley en Californie. Tentez de décrire l'interaction nucléaire forte, par exemple. Si elle a produit des éléments utiles comme le technétium, utilisé en médecine nucléaire, ou controversé comme l'américium, autrefois exploité dans des détecteurs d'incendie, avant que son usage ne soit banni dans de nombreux pays, cette quête des corps artificiels a surtout un intérêt scientifique. Elle permet de valider les descriptions théoriques des noyaux et tenter de décrire l'interaction nucléaire forte. Cette force qui donne la cohésion aux protons et neutrons et dont la nature échappe encore aux physiciens. Nous savons théoriquement que ceux-ci parviennent à se combiner pour former ce que nous appelons des îlots de stabilité, autrement dit des noyaux stables. Mais nous n'avons pas encore réussi à synthétiser des éléments super lourds qui le soient, souligne Eric Seri. Pour le moment, nous atteignons le rivage de ces îlots, des régions où la durée de vie des noyaux est au mieux une seconde. Avec la mise en service l'an prochain de la nouvelle usine de fabrication d'éléments super lourds du laboratoire Flerov, nous essaierons de nous rapprocher du centre des îlots de stabilité, en synthétisant des éléments super lourds contenant proportionnellement plus de neutrons. Nous espérons ainsi accroître leur stabilité en multipliant leur durée de vie par un facteur de 10 à 100 000. Jusqu'à présent, les corrections observées n'ont cependant pas infirmé le rangement d'un élément artificiel. Il est d'ailleurs probable que le numéro 118, qui n'a pas encore été étudié sur le plan chimique, conserve sa place dans la colonne des gaz rares. Bien qu'il ne soit pas gazeux à température ambiante, poursuit le physicien. Il sera cependant plus difficile de ranger dans le tableau de Mendeleïev, plus que centenaire, les futurs éléments, 119 et 120, provisoirement nommés ununénium et un binilium, que les chercheurs tentent désormais de produire sans succès jusque-là. Leur durée de vie attendue est en effet de quelques millisecondes pour le 119 et 10 fois moins pour le 120. Les calculs suggèrent qu'ils viendront inaugurer une huitième ligne dans le tableau, affirme Yuri Oganessian. Et que se passera-t-il si un jour 121 ou 122 font leur apparition? Ce serait probablement la fin de la classification telle qu'on la connaît, car il est fort possible qu'avec eux, la périodicité des propriétés chimiques disparaisse. Mais parviendra-t-on à déterminer ces propriétés? Personne ne le sait.
Intéressant, et autrement dit, peut-être nos enfants et nos petits-enfants auront une toute autre table sous les yeux et
plus effrayant
et beaucoup plus de choses à apprendre, les pauvres, on pense à eux. Amène un peu sur le plancher des vaches, le plancher des chèvres même en l'occurrence. Je vous parle d'une chèvre au destin peu banal qui vit non loin de nous ma foi puisque c'est au Vermont que je vous emmène. Les habitants de Fairhaven, petite ville du Vermont, ont choisi la semaine passée pour nouveau maire une chèvre au nom prédisposé à la politique, Lincoln. Cette chèvre nubienne de 3 ans aux longues oreilles blanches a devancé mardi, c'était il y a 2 semaines, dans les urnes, 15 autres candidats, dont la gerbille Crystal et de nombreux chiens et chats. Fairhaven, environ 2500 âmes, n'a pas de maire officiel à sa tête, mais un town manager, un gérant municipal en français. Joseph Gunter, chargé de fonctions semblables. C'est lui, en lisant dans le journal qu'un village du Michigan, Omena, avait fait d'un chat Sweet Tart, son nouvel édile, qu'il a eu l'idée d'organiser une élection similaire afin de récolter des fonds pour la construction d'un terrain de jeu. Avec 13 voix, Lincoln, la chèvre du prof de maths de l'école primaire, a devancé de justesse Sammy le chien. Et elle aura surtout au cours de son mandat de 1 an un rôle de représentation lors des différents événements rythmant la vie de Fairhaven. la parade du Memorial Day, le festival des pommes et les animations que nous proposons chaque vendredi en été, énumère pour l'AFP Joseph Gunter. Seule une centaine de dollars, à raison de 5 dollars par candidature, a été récoltée pour le terrain de jeu, mais cette élection animalière a aussi été, selon lui, une bonne façon d'intéresser les enfants à la démocratie locale. Petit bémol, la participation, 53 suffrages exprimés, a été faible. Mais c'était une première. Nous nous attendons à ce qu'elle soit supérieure l'an prochain. Lincoln, qui doit officiellement prendre ses nouvelles fonctions aujourd'hui, n'aura probablement aucun mal à ménager la chèvre et le chou au sein de l'exécutif local.
Bon, ça nous rappellera un peu l'œuvre de Orwell.
Exactement, oui. La ferme des animaux, en souhaitant que ça se termine un peu mieux que dans le livre d'Orwell.
Créons un malaise ce matin. On vient d'entendre Super Chérie parce que Yves Olivier vient d'arriver en studio.
c'est la Super Chérie qui vient d'arriver.
il est touché, je suis sûr. Il blague, mais il est touché dans le fond.
Merci beaucoup.
Bonjour Yves Olivier.
Bon matin.
Bienvenue dans le studio avec nous. vous nous rejoignez. Et allez, je vous tends le micro. Qu'avez-vous comme sujet pour nous ce matin ?
Faites-moi pas trop rire. Je reste sur un sujet un petit peu plate de celui de la semaine passée.
Oui, effectivement.
Celui de la mort d'un camarade de classe. Et là, je vais vous donner l'avis d'un psychologue, parce qu'on avait parlé donc de la personne qui écrivait un livre là-dessus. Mm-hmm. Alors, parler de mort et de deuil en littérature jeunesse est nécessaire, estime Déborah Hummel. Elle est psychologue et professeure adjointe au département de psychoéducation de l'université de Sherbrooke. Dans leur vie, les enfants sont comme les adultes confrontés à la mort, rappelle-t-elle. Le plus souvent, cela peut être un animal qui meurt, un poisson, un oiseau, un chat, mais cela peut aussi être un grand-parent. Les enfants sont également confrontés aux morts qui sont décrites dans l'actualité, par exemple la tragédie des 7 enfants décédés dans un incendie à Halifax, illustre Déborah Hummel, qui n'a pas lu 25-1. Les enfants peuvent voir des images dans les journaux ou à la télévision, ils ne vivent pas déconnectés de notre monde. Face à cette réalité, des œuvres abordant ces questions, si elles sont bien faites, peuvent constituer des outils utiles pour aborder ces questions essentielles avec leurs enfants. J'irais même jusqu'à dire qu'on en devrait davantage aborder la mort et le deuil dans le cursus scolaire. Les enfants se remettent-ils plus facilement d'un décès ? Non, c'est leur réaction à la perte qui diffère, répond la psychologue. Un adulte peut ressentir de la peine et pleurer pendant quelques heures, observe-t-elle. Un enfant, après un certain temps, va ressentir une autre émotion et se remettre à jouer, par exemple. On ne peut pas en déduire qu'il souffre moins, il souffre différemment. Ce qu'on constate dans la pratique, c'est que des pertes précoces, si elles n'ont pas été accompagnées adéquatement, par exemple en donnant des explications avec des termes adaptés à l'âge et au stade développemental de l'enfant, peuvent ressurgir plus tard dans la vie, vers la quarantaine, alors qu'on commence à vivre d'autres pertes. Cela a le potentiel de compliquer le deuil, d'autres pertes auxquelles on fait face sans qu'on s'en doute aux premiers abords. C'est la rentrée, Eve a 9 ans, elle s'inquiète de ne pas retrouver Thomas en classe. Le garçon a une maladie au nom de Pokémon, un pinéaloplastome de grade 4, un cancer, quoi. Comment faire face à la maladie, à la mort et aux regrets en quatrième année ? Il y a un roman qui a été écrit, qui peut sembler précipité par moments, aborde ces sujets graves et malheureusement réels, avec délicatesse humain et vrai. Donc c'est 25 et moins, de Geneviève Pichet, collection Gulliver. Simon aime se reposer au pied d'un grand chêne avec Annabelle, née le même mois et à la même année que lui. Un jour à l'école, sa chaise reste vide. Simon, si costaud pour défendre Annabelle dans la cour d'école, a la leucémie. Après sa mort, Annabelle lui écrit des mots doux qu'elle enterre au pied du chêne de Simon. Le frère aîné de son ami lui dit qu'elle pensera un jour à lui avec de la mélancolie. « La mélancolie, c'est comme la tristesse, mais avec de la douceur en dessus », explique-t-il. Le dit livre, aux riches peintures et à l'acrylique, fait comprendre aux enfants qu'ils n'ont le droit d'exprimer leurs émotions face à la mort. C'est important. Il y a également le cimetière des mots doux, donc d'Agnès Ledig, illustration de Frédéric Pilot. Et je termine ainsi. Voilà.
Et donc, on va rester sur les bancs de l'école. Voilà, et on va parler d'une autre chose que beaucoup plus de gens connaissent, heureusement d'ailleurs, que la disparition d'un camarade. C'est l'anxiété des mathématiques. Je pense qu'on y est tous passés un petit peu. Cette appréhension face à une tâche mathématique existerait réellement, d'après un rapport de l'université de Cambridge. En cause, une mauvaise estime de soi, présenter une dyscalculie ou encore les stéréotypes. Nous avons enquêté sur les attitudes des individus à l'égard des mathématiques à cause de ce que l'on pourrait appeler une crise des mathématiques au Royaume-Uni, expliquent les auteurs du rapport. Car la proportion d'adultes possédant des compétences en mathématiques fonctionnelles équivalentes à un niveau moyen de lycée est passée de 26% en 2003 à seulement 22% en 2011. Un rapport étonnamment bas par rapport aux 57% qui ont atteint une compétence équivalente sur le plan alphabétique. Face aux mathématiques, réputées matières difficiles, des sentiments d'appréhension, de dégoût, de tension, d'inquiétude, de frustration ou de peur peuvent apparaître, notent les experts. Et les conséquences ne sont pas anodines. Depuis le souffle court ou le cœur qui s'accélère,
jusqu'à un mauvais comportement en classe ou un renoncement à tout ce qui se rapporte aux maths, des cours, aux devoirs. Les auteurs du rapport pointent également un cercle vicieux. En effet, les personnes ayant des niveaux d'anxiété mathématique plus élevés ont tendance à avoir de moins bons résultats aux tests de mathématiques. Pourtant, ce ne sont pas seulement les enfants ayant de faibles aptitudes en mathématiques qui souffrent de cette anxiété. Plus des trois quarts des enfants concernés par ce problème sont normaux à très performants aux tests de mathématiques du programme d'études, précise le rapport. Parce que ces enfants réussissent bien aux tests, leur anxiété mathématique risque fort de passer inaperçue de la part des enseignants et de leurs parents, qui ne se préoccupent que de la performance, mais pas de facteurs émotionnels, déclare le docteur Amy Devine, un des auteurs, dans un communiqué. Cependant, il est presque certainement vrai qu'à long terme, les personnes ayant une plus grande anxiété en mathématiques obtiendront des résultats moins bons que leurs véritables capacités. En France, par exemple, les élèves sont les plus mauvais élèves européens dans le domaine mathématique, selon l'enquête TIMSS de 2015, effectuée tous les 5 ans par une association internationale indépendante, et qui évalue donc les acquis des élèves en maths et en sciences. L'Angleterre était au contraire bien classée au 3e rang européen derrière l'Irlande et l'Irlande du Nord. Plusieurs facteurs peuvent rendre l'individu susceptible de développer une anxiété aux maths. Parmi eux, on trouve plutôt logiquement une mauvaise estime de soi, une absence de goût pour cette matière, présenter une dyscalculie, qui est donc un trouble de l'apprentissage et du maniement des nombres, ou encore le genre. Ainsi, même au primaire, les filles sont plus anxieuses en mathématiques que les garçons, même si leurs performances en mathématiques ne sont pas différentes, rapportent les deux auteurs dans le rapport. Pour eux, deux causes sont envisageables. D'une part, les filles pourraient avoir une plus grande propension à l'anxiété en général, mais comme cela a été aussi constaté pour d'autres formes d'anxiété. Deuxième cause, les effets des stéréotypes de genre des parents, qui s'attendraient à ce que leur fille ait plus de difficultés en maths que leur fils. D'ailleurs, les auteurs signalent que l'anxiété mathématique a été constatée chez de jeunes écoliers dès l'âge de 6 ans, âge qui correspond justement au moment où les filles commencent à se déconsidérer au profit des garçons, d'après une grande enquête de 2016. Les enseignants doivent être conscients du fait que l'anxiété mathématique des individus affecte probablement leurs résultats en maths, expliquent les auteurs, pour qui il serait un progrès d'être conscient que chaque individu a la capacité d'améliorer et de dépasser ses performances passées, plutôt que de croire que les aptitudes mathématiques sont fixes, voire innées. À l'heure actuelle, l'anxiété liée à cette matière peut être un facteur majeur de la suppression des performances dans cette discipline chez de nombreux enfants. Et au bout du compte, pour éloigner les carrières liées aux mathématiques, concluent les auteurs. Et s'attaquer à leurs propres angoisses et leur système de croyances en mathématiques pourrait être le premier pas pour aider les élèves.
Et c'est compliqué comme histoire, il y en a des complexes dans tous les sens. Et je repense moi à une professeure de mathématiques que j'avais eue qui nous répétait à chaque début de cours que se tromper n'était pas grave. Au début, ça nous faisait sourire, on trouvait ça un peu drôle, mais au bout de plusieurs mois, quand on l'entendait régulièrement, on se rendait compte que oui, ça faisait son bonhomme de chemin et que, effectivement, c'était pas grave.
C'était pas si grave que ça.
Sont débordés, on sent bien la nervosité. 13 écrans géants à monter, toute la sono à balancer. 7 caméras pour le podium, 12 pour une foule de 200 hommes, 14 pour la table d'honneur et plusieurs autres à l'extérieur. 1, 2, 3 tests de micro, on rajoute un petit peu d'écho. Ça donne un effet de grandeur aux mauvais orateurs. Un petit gel orange en façade pour colorer leur ton maussade. Un décor des plus mauvais goûts, rempli d'affreux logos partout. Dans quelques heures, le show va commencer. Sauf que personne va chanter ni danser. Ce soir les mots seront pesés, ce soir les mots seront comptés. Ce soir le bilan déposé, ce soir les chiffres vont parler. Les tables sont enfin montées, le maître d'hôtel est tracassé. Les 83 cuisiniers le questionnent sur la quantité de câbles et de rondelles d'oignons à servir avec le saumon. Et qu'en est-il du wasabi à côté ou dedans le sushi? 200 couverts fois 7 services, mes amis, soyons réalistes. C'est 2000 places sous la normale de congrès libéral. Passez l'heure du vin ordinaire, y'a pas plus cheap que millionnaire. Mettez le paquet sur l'apparence et servez des portions immenses. Dans près d'une heure, le show va commencer. Retransmis en direct à la télé. Ce soir, les mots seront comptés. Ce soir, les mots seront pesés. Ce soir, le bilan déposé. Ce soir, les chiffres vont parler.
Les derniers détails à régler, la tension ne cesse de monter. Le quatuor vient d'arriver, on cherche un coin pour l'installer. Le maître de cérémonie, un vieil humoriste fini, pousse les limites du pathétique en voulant faire son petit comique. Ça grouille partout, faut faire ça vite. On court, on s'énerve, on palpite les actionnaires dans le lobby, fume et s'inquiète aussi. On s'est clamé, fut un calvaire, l'action chutait encore hier. 80 milliards de profits, c'est moins que ce qu'on avait prédit. Dans une demi-heure, le show va commencer. De quelle humeur sera le PDG? Ce soir les mots seront comptés, ce soir les mots seront pesés, ce soir le bilan déposé, ce soir les chiffres vont parler! T'es fin prêt pour démarrer, malgré le stress et l'anxiété. Les actionnaires sont attablés, les serveurs attendent le hockey. Réunion de l'équipe technique, le réalisateur panique. Il explique pour la 20e fois le début du show à haute voix. On ouvre sur un jet privé qui atterrit sur Grand Allée, au milieu du peuple ébloui qui bien sûr applaudit. Le PDG sort de l'avion, sourire figé sans émotion, monte en calèche, salue la foule, arrive au château et ça roule. Dans 10 secondes, le show va commencer. Vous pouvez servir le saumon fumé. Ce soir les mots seront comptés, ce soir les mots seront pesés, ce soir le bilan déposé, ce soir les chiffres vont parler.
La formation Paul-Émile Bazard est un extrait de leur dernier album qui est paru en 2005, la pièce Les chiffres vont parler.
Merci Jean-Sébastien. Il nous reste une petite minute avant de partir en pause. Et qu'est-ce qui est divertissant et rapide donc? Eh bien une ride en Uber, prendre un taxi avec Uber. Au cours de la dernière année, les clients d'Uber au Canada ont notamment laissé derrière eux un œil de verre, une dent en or, un fouet et même un diplôme en sortant des véhicules dans lesquels ils ont été transportés. Une poutine, un ukulélé et des prothèses dentaires figurent également sur la liste des articles insolites qui se sont retrouvés sur les banquettes des véhicules exploités par les chauffeurs d'Uber au Canada. Selon les données compilées par l'entreprise, c'est à Montréal, à Lethbridge, en Alberta, ainsi que dans les régions en Waterloo, en Ontario, que les oublis ont été les plus fréquents. Les troubles de mémoire semblaient être plus fréquents chez les clients d'Uber les samedis et dimanches, étonnamment, entre 23h et 1h. Les données de la société indiquent que ces clients avaient tendance à oublier des montres le lundi, des écouteurs le mardi, des ordinateurs portables le mercredi, des livres le jeudi, des passeports le vendredi, des téléphones intelligents le samedi, ainsi que des gâteaux le dimanche. Voici, nous revoilà pour la seconde partie de cette émission. Allez à vous, Yves-Olivier, de quoi nous parlez-vous? Un autre sujet de société?
Oui.
Oui.
Et pas des plus amusants.
Mais il faut en parler aussi,
oui,
voilà,
ça fait partie. Le sourire, exactement.
Ça fait partie de l'actualité aussi.
Et c'est un appel, en fait, même aux auditeurs, j'ai envie de dire. C'est les familles d'accueil qui sont recherchées à Montréal, de plus en plus. Alors, c'est un texte de Radio-Canada. La direction de la protection de la jeunesse de Montréal, la DPJ, tire la sonnette d'alarme à la suite de la chute draconienne du nombre de familles d'accueil pour les 0-5 ans au cours des dernières années. Depuis 2011, le nombre de familles d'accueil a grandement diminué, passant de plus de 900 ressources à moins de 300, une baisse qui s'explique par des motifs variés. Parmi ces couples qui ont cessé d'être familles d'accueil, il y a des couples qui ont vécu des maladies, le décès d'un des membres du couple, des retraites, des séparations, donc à travers le temps, il y a vraiment une baisse significative des familles d'accueil, explique la directrice adjointe des programmes jeunesse du CIU 3S du centre de l'île de Montréal, du centre sud de l'île de Montréal, Nathalie Bibot. Selon la DPJ, il faudrait minimalement une vingtaine de nouvelles familles pour favoriser des jumelages optimaux pour les enfants âgés de 0 à 5 ans dans des milieux de vie où ils pourront grandir et évoluer. Ce nombre peut paraître petit, admet l'organisation, mais il s'agit en fait d'un objectif ambitieux. Par année, on réussit de façon globale à recruter 10 à 12 familles nouvelles familles. Mais nous, on en aurait vraiment besoin d'une vingtaine, rien que pour recevoir des enfants 0 à 5 ans, explique Madame Bibot, qui note qu'il est généralement plus difficile de recruter des familles pour les tout-petits que pour les enfants d'âge scolaire. Pour les plus grands, qui vont déjà à l'école, c'est déjà moins demandant, avance-t-elle. Il faut dire que les enfants qui doivent être placés dans une famille ont souvent de grands besoins et peuvent avoir vécu des traumatismes et nécessiter plusieurs rendez-vous médicaux par exemple. La directrice de la protection de la jeunesse de Montréal, Assunta Gallo, précise toutefois que les familles d'accueil demeurent le dernier recours pour les enfants auprès desquels la DPJ doit intervenir et que la plupart demeureront avec leurs parents ou chez des proches. Pour ceux qui devront être placés en famille d'accueil, certains auront besoin d'un accueil temporaire, mais d'autres ne retourneront pas dans leur milieu, ajoute-t-on. Nathalie Bibot souligne que toute personne, peu importe son état civil, sa religion, son orientation sexuelle, sa nationalité, qu'elle soit à la maison ou sur le marché du travail, peut devenir une famille d'accueil. On cherche des gens qui ont de l'ouverture, de la souplesse, de la patience, de la constance. Ça prend des gens solides. Il faut une bonne capacité d'adaptation aux différentes situations. Il faut être prêt à collaborer avec des intervenants, parce que ces enfants-là sont aussi suivis par des personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse. Les familles intéressées doivent également être prêtes à passer par un processus de sélection rigoureux. Environ 1100 enfants de tout âge sont actuellement en famille d'accueil sur le territoire montréalais.
Ok, donc qu'est-ce que... moi j'ai une petite question, j'ai une petite question avant tout. On parlait des enfants, qu'est-ce que détestent les enfants et qu'on mange beaucoup en hiver?
En hiver spécialement?
Oui.
Parce que sinon il y avait les épinards
qui
venaient naturellement.
Un plat qui réchauffe.
Une soupe.
Ah, la soupe. voilà. Effectivement, vous trouvez pas ça compliqué de faire manger de la soupe aux enfants? Moi, j'aimais pas ça. Hein.
Ah ouais.
Non, on va parler de soupe effectivement, parce que c'est un peu le thème et que maintenant j'adore ça. Donc...
parlons de votre nouvelle passion. Allons-y.
Velouté de champignons, bouillon thaï, minestrone. Simple entrée ou repas complexe, la soupe a toujours autant de succès en hiver. C'est au XIIe siècle que le mot « sope » S-O-P-E, fait son apparition pour désigner une tranche de pain que l'on arrosait de bouillon. Le mot « potage » désignait quant à lui, à l'origine, des légumes cuits au pot. Les Français, ainsi que les Canadiens, consomment aujourd'hui 13 litres de potage, soupe ou bouillon par an, chaud ou froid, en brique ou fait maison. Venus d'outre-Atlantique, des bars leur sont même entièrement consacrés, proposant velouté et soupe healthy. Les industriels tentent de séduire avec de nouvelles recettes désormais estampillées bio, pour certaines. Velouté de cèpe, de bois aux petits oignons et balsamiques, duo d'asperges aux éclats de morille, ou velouté de légumes verts et quinoa bio. Un marketing qui ne doit pas faire oublier que les soupes industrielles contiennent des additifs et souvent encore beaucoup trop de sel. La solution, si l'on ne souhaite pas cuisiner soi-même, opter pour des versions surgelées ou réfrigérées, plus proches d'une soupe maison. La cuisson à la vapeur préserve les vitamines. Une assiette de soupe de légumes apporte à l'organisme des vitamines A, avec les carottes, tomates, épinards, dont Louis raffole apparemment. Des vitamines C dans les poivrons, les poireaux, les navets, mais aussi des minéraux et des oligo-éléments tels le magnésium, le calcium ou le potassium. Sans oublier le zinc ou le soufre, l'un des composants des acides aminés, soufré indispensable à l'organisme. Les végétaux renferment une multitude de pigments qui leur confèrent leur couleur. Parmi eux, les caroténoïdes, dont la cuisson, couplée à une matière grasse, augmente l'absorption dans le tube digestif. Précurseurs de la vitamine A, les caroténoïdes sont plus particulièrement présents dans les végétaux rouges, oranges ou jaunes, citrouilles, poivrons, carottes, tomates, etc. Manger une tomate cuite procurerait ainsi à l'organisme 3 fois plus de lycopène qu'une tomate fraîche. Ce pigment diminuerait le stress oxydatif et le développement de cellules cancéreuses. De surcroît, selon une étude, les fruits et légumes riches en lycopène amélioreraient la souplesse des vaisseaux sanguins chez des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Constituée essentiellement d'eau, la soupe contribue à satisfaire les besoins hydriques journaliers, à peu près 2 litres. Peu calorique, elle est à mettre au menu pour celles et ceux qui surveillent leur poids. Comptez 125 kcal au maximum par assiette, sous réserve de ne pas ajouter de matière grasse. Les soupes de légumes, source de fibres, apportent rapidement une sensation de satiété, ce qui permet de limiter la quantité d'aliments ingérés au cours des repas. Une étude menée chez des personnes en surpoids a montré que débuter le repas par un potage permet de diminuer jusqu'à 268 kcal l'apport énergétique de la journée. Il peut être intéressant de laisser quelques morceaux de légumes, car le mixage a l'inconvénient de casser les fibres. Par ailleurs, la mastication allonge la durée du repas, laissant le temps au cerveau de recevoir les signaux de satiété. La soupe est aussi un moyen judicieux de manger des légumes pour ceux qui ne les apprécient pas. Prudence toutefois avec les soupes industrielles en briques, plus ou moins riches en légumes selon les marques. En revanche, les produits surgelés ou frais réfrigérés sont riches en légumes. L'emballage peut aussi porter à confusion et la soupe au final ne fournir qu'une quantité infime des ingrédients pourtant mis en valeur. Exemple, la soupe déshydratée au bœuf et à la carotte de Magie, qui ne contient aucun morceau de viande, mais 1,1% de jus de cuisson de bœuf et seulement 5,5% de légumes pour 48% de vermicelle. Enfin, une portion de soupe industrielle comme le velouté aux 9 légumes de Knorr apporte 2,03 g de sel, soit beaucoup trop. L'OMS recommande de ne pas en consommer plus de 5 g par jour pour prévenir l'hypertension artérielle et limiter les maladies cardiovasculaires. Attention aussi au sucre, souvent caché sous la forme de sirop de glucose, utilisé pour adoucir le goût. Un bol de potage pure soupe veloutée de légumes, de la marque Liebig, contient ainsi l'équivalent d'un morceau de sucre, soit 6 g. Par ailleurs, les potages en briques et les soupes instantanées renferment nombre d'additifs. Matières grasses végétales hydrogénées, comme l'huile de palme, amidons modifiés de maïs ou de blé, et surtout du glutamate monosodique, un exhausteur de goût neurotoxique à dose modérée chez les bébés singes, et responsable d'intolérance chez l'homme. Donc, manger de la soupe, mais avec de vrais légumes.
En faisant attention. Oui, nous n'allons pas nous faire que des amis avec cet article. On va peut-être voir débarquer les avocats de toutes ces entreprises. En attendant, faites vos soupes vous-même et faites attention à ce que vous mangez.
Ouais, la mère Baldu qui revient, les courts tichés, fringants, puis je mets une balle qu'on vient de peinturer.
Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens vous regarder, je vous dis que ça me fait doucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je suis faite une bonne longue, je guéris dans vos grands dames. J'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de lutter. Puis ça me fait bégayer. J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi gros qu'un trantou. J'en ai un autre sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un sur le bord d'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils t'amènent pas son 44 carreaux. J'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de lutter. Puis ça me fait bégayer.
Y a-t-il du monde qui ont toutes les maladies, j'ai l'impression d'être beau? En a-t-il du charpent, cet enfant-là?
Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. Tout ouvrage, il va en avoir pour tout le monde est divin. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi, j'ai toujours le cœur qui continue à lutter. On se plaint à Montréal, après tout, on est pas mal. Dans la province du Québec, on mange notre pain bien sec. Il faut d'ouvrage au Canada, élevez moins dans les états. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certaine de crever de faim.
La paradis comme Taylor, elle croise pas qu'elle crève de faim.
Ça va venir, découragez-vous pas. Moi j'ai toujours le cœur qui continue à se lutter. Ça va venir, découragez-vous pas. Moi j'ai toujours le cœur qui continue à se lutter.
Crime à sac, le pire, ça suffit, vitamine, ça fait là.
Oh oui, on en a des légumes. Des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des bouchous. Des patates, puis des tomates, oh oui, on a des rouges et verts. Quand Breda est arrivé, il a commencé à chanter. Venez-moi, mes échalotes, sont seulement des sternabots. Des radis, puis de la salade, des patates, puis de la roubarde. C'est du vrai sirop d'arabe, fait avec la cassonade.
On fait comme ce qu'on avait, mais devant Dieu, sont en vue, baptême.
Oh oui, on en a des légumes. Des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des bouchous. Des patates, des tomates, oui, on a des rouges et verts. On en donne dans les ruelles, la bouche vendue aux arrêts. Le visage tout en grimace, vous dites qu'il donne pas sa place. On a des beaux cocons, on en a pour tout le monde. Y'en a pas dans le quartier, qui a des beaux cocons comme moi.
Hey, pas le poignard avec tes cocons, la mère, on a vu nos légumes avant aujourd'hui.
Oh oui, on en a des légumes. Des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des bouchous. Des patates, puis des tomates, oui, on a des rouges et verts.
Bravo, non, tu régis la calopralou.
Un petit peu de folie rétro ce matin avec Marthe Fleurant qui nous interprétait un medley des meilleurs succès de La Bolduc, dans l'ordre ou dans le désordre, j'ai un bouton sur le bout de la langue. Et en fait, la pièce que je voulais entendre, c'était surtout l'extrait « Ah oui, on en a des légumes » pour faire du pouce un petit peu sur cet article sur la soupe.
Merci Jean-Sébastien, ça réveille, ça met de bonne humeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous parle pas de soupe, mais pas loin d'un festin que pensait faire un renard en France et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Arroseur arrosé, un jeune renard qui avait pénétré à la tombée de la nuit dans un poulailler avec les intentions qu'on lui prête, a été retrouvé gisant et plus de ce monde au matin. Victime de ses proies supposées, a-t-on appris, c'était la semaine passée, auprès de l'homme qui a découvert la scène du crime au matin. Les faits révélés par la presse locale se sont déroulés en fin de semaine dernière au sein du poulailler bio du lycée agricole de Groschène à Pontivy dans l'ouest de la France. Chaque matin, vers 8h-8h30, on fait une visite du poulailler pour voir si tout va bien. On vérifie si les poules ont assez d'eau, s'il y a encore de l'alimentation. Et là, dans un coin, on a trouvé ce renard. Les poules sont très vives, il y a eu un effet de groupe, elles l'ont attaqué à coups de bec, a expliqué à l'AFP Pascal Daniel, responsable d'exploitation du lycée. Selon M. Daniel, dans ce poulailler où les poules sont en liberté toute la journée et ne rentrent que la nuit pour pondre, le renard s'est vraisemblablement introduit sur le site à la tombée de la nuit. Mais pourchassé par les poules, il n'a pas pu ressortir car les trappes qui ouvrent sur l'extérieur se ferment automatiquement en fonction de la luminosité. L'animal, un jeune renard de 6 ou 7 mois, s'est donc retrouvé piégé pour la nuit et livré à la vindicte des volatiles, selon la même source. La dernière visite d'un renard dans le poulailler du lycée agricole remonte à un an et demi, et c'était moins bien terminé pour les poules, a précisé M. Daniel. Et pendant que je vous ai un deuxième sujet à plume, un deuxième sujet avec des ailes, parlons d'un pigeon voyageur vendu en Belgique et qui devient l'oiseau le plus cher du monde, mine de rien. Vendu pour 1,25 million d'euros en Belgique. Un pigeon voyageur dressé, vedette des concours de colombophilie, a été vendu dimanche plus de 1,25 million d'euros lors d'une vente aux enchères en ligne. C'est le site spécialisé Pigeon Paradise, je ne connaissais pas l'existence de site, mais je vais aller voir, qui a annoncé ce record mondial à l'actif du dénommé Armando, pigeon flamand mâle de l'élevage de Joël Verschoot, un des plus réputés du pays. Personne ne s'attendait à ce que le cap magique d'un million d'euros soit pulvérisé. Le montant final de la vente est de 1 252 000 euros, a souligné le site. Bien sûr, l'identité de l'acheteur n'est pas connue comme avec les grands tableaux. Selon l'agence de presse belga, il s'agit d'un Chinois qui utilisera certainement le volatile à des fins reproductives pour faire naître de nouveaux champions. L'intérêt des collectionneurs chinois pour les pigeons voyageurs remonte à quelques années et a fait bondir les prix pour ces champions, dont la performance consiste à rentrer le premier au bercail, à l'instinct, après avoir parcouru parfois des centaines de kilomètres. Enraciné en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas ou dans le nord de la France, la tradition des concours de pigeons voyageurs était sur le déclin. Mais cet intérêt des Asiatiques lui a redonné une seconde vie dans certaines régions. Selon le site, le pigeon le plus cher de l'histoire des ventes sur Internet était jusqu'ici New Blixem, cédé 376 000 euros en novembre dernier. Fin janvier 2012, Wu Zhenyu, un richissime industriel chinois, s'était offert Special Blue, un autre, pour 250 000 euros, battant à l'époque le record mondial en la matière. Armando appartenait à l'élevage Verschoot, établi à Ingelmünster, à l'ouest de la Belgique. Au total, la famille Verschoot a vendu ce dimanche, à l'issue d'une vente en ligne ouverte depuis quelques semaines, 178 pigeons pour quelque 2 millions d'euros. Il y a de fortes chances qu'Armando reste en Belgique, car c'est là que les prix offerts pour sa future progéniture devraient être les plus intéressants, indique finalement l'agence belga.
Retour à des sujets un peu moins sympathiques que l'achat de pigeons.
C'est très sérieux aussi, il y a des vrais fans, mais oui, il y a des sujets un peu plus fondamentaux, effectivement.
Je m'en excuse déjà.
Non, allez-y.
Je vais vous parler de prison et du choc du retour à la liberté.
Bon, bah, c'est positif quand même. C'est pas la prison, voilà, il y a une issue positive quand même.
Tout à fait, c'est bien, c'est
bien comme attitude.
Et tout à fait. Alors, c'est un texte de Chantal Demers de La Presse, qui nous parle donc du choc du retour à la liberté après la prison. Depuis 2012, les personnages de la télésérie Unité 9 comme Marie, Suzanne, Shandy, Jeanne, Henriette et les autres ont affronté de multiples défis. Qu'en est-il des vrais détenus ? Le retour à la liberté est-il aussi difficile dans la réalité qu'au petit écran ? L'enclenchement du processus judiciaire avec l'arrestation, l'incarcération est très impressionnant. Mais à l'autre bout du processus, le passage à la liberté, longtemps idéalisé, devient souvent éprouvant pour la femme qui, aux prises avec les attentes de tous, doit reprendre une vie en société, explique Ruth Gagnon, directrice générale de la société Elisabeth Fry du Québec, devenue la société Justine Sarrazin dans Unité 9, la série. Roxane, l'une des femmes qui ont inspiré le personnage de Marina Montagne, a purgé une longue peine pour meurtre. Cette mère de famille avoue avoir eu de nombreuses difficultés à reprendre le contact avec ses enfants. Ce sont des membres de ma famille qui avaient accepté de s'en occuper temporairement, et même si un avocat m'avait conseillé de bien mettre sur papier les termes de notre entente, ce fut quand même difficile de reprendre mon rôle de mère. Tant pour la mère que pour ses enfants, le fantasme des retrouvailles est très fort et tous pensent reprendre leur vie comme avant. Excusez-moi. Ce n'est pas si simple. L'étiquette sociale risque d'amener plusieurs femmes à un constat d'échec. Elles sont très sensibles à l'impact que leur judiciarisation a eu sur leurs proches, et c'est souvent au moment du passage à la liberté qu'elles peuvent en prendre toute la mesure. Pour plusieurs femmes, particulièrement celles qui sont issues de petites communautés, le retour à la liberté exige parfois un changement complet d'environnement. Sylvie Lantier s'est retrouvée incarcérée pour la première fois de sa vie au début de la cinquantaine. Pour changer de vie, j'ai dû changer de ville et de cercle de connaissances. À Montréal, la société Elisabeth Fry du Québec gère la seule maison de transition pour femmes, maison Thérèse Casgrain, qui joue un rôle déterminant dans la réinsertion sociale des ex-détenus. Avant de redevenir des citoyennes productives, les femmes doivent comprendre les causes de leur judiciarisation, explique Ruth Gagnon. Ce travail se fait véritablement à l'extérieur de la prison, en liberté. En général, plus la sentence d'incarcération était longue, plus la femme aura besoin de services d'accompagnement et l'objectif est de lui éviter de vivre un nouvel échec. Sylvie Lantier a pu bénéficier de ces services. J'ai eu l'impression d'être laissée un peu à moi-même en prison. Ce n'est que durant les 5 mois passés à la maison de transition que j'ai pu recevoir toute l'aide dont j'avais besoin pour ne pas retomber dans les mêmes patterns. J'y ai appris à comprendre mon délit et à faire des liens avec ma jeunesse. J'ai toujours été un peu le mouton noir de ma famille. Un atelier sur la gestion des émotions m'a vraiment aidé. J'y ai appris des trucs concrets, tout un bagage d'outils et compris beaucoup sur la psychologie. Aujourd'hui, je les vois venir de loin, les manipulateurs, ajoute-t-elle en riant. Dans le cas particulier des femmes judiciarisées, spécifie Ruth Gagnon, le passage à la liberté implique une démarche vers une autonomie affective et aussi financière, puisque la pauvreté est un facteur important de la judiciarisation des femmes. Désavantagées par leur nombre et paradoxalement par le fait qu'elles n'ont souvent pas commis de crimes violents, les ex-détenus, ES, n'ont qu'un accès limité à des services par rapport aux hommes. Il est par exemple très difficile, voire impossible, pour une femme de trouver un logement abordable et stable lorsqu'elle possède un casier judiciaire, alors que c'est souvent l'accès à un logement subventionné qui permet de sortir de la criminalité. Quand tu donnes une chance à une ex-détenue, elle la rate rarement, constate Ruth Gagnon, après 30 ans de carrière auprès des femmes judiciarisées. Et quand tu aides l'une d'elles, c'est aussi tout un réseau familial et social que tu soutiens autour d'elle.
Je voudrais bien sortir, mais j'ai pas la clé. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'attends enfin le jour où je pourrai partir, mais si on m'ouvre la porte, moi je m'en vais déguerpir. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'essaie de voir le ciel, mais le plancher est frais, pis rentre pas de soleil. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Je pense à mes amis qui font tout plein de conneries, mais ils n'ont jamais rien fait pour me sortir d'ici. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Thank you.
maison. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Le juge m'a vu, puis il était plus capable. Il m'a jeté au trou comme un vieux reste de table. J'ai le blues d'être tout seul en prison. De la vie, je me suis gossé une corde avec les draps de mon lit. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Et même si Dieu lui-même il veut me faire la peau, ben sur mon petit nuage, y'en aura pas de barreau. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison.
Les chercheurs d'or avec le blues d'être tout seul en prison, un petit blues country ce matin sur Canal M.
Excellent, excellent ce petit blues, effectivement. Et pour finir, attaquons-nous à un sujet brûlant. Pourquoi le piment pique ?
Après la soupe, on rajoute du piment.
Exactement. Nous avons tous connu ce moment. Vous croquez avec enthousiasme dans cet aliment et soudain, la douleur déferle. Intense et lancinante. Un mélange entre une piqûre intense et une brûlure atroce, au point, parfois, de vous faire monter les larmes aux yeux. Que vous ayez mordu dans un morceau de piment fourbement déguisé en poivron, ou quelque peu sous-estimé la puissance de cet innocent pot de tabasco, le résultat est toujours le même. Un mélange de panique et de regret. Mais qu'est-ce qui provoque cette sensation de brûlure atroce ? Est-elle dangereuse ? La réponse se trouve dans le nom botanique de cette plante. Le nom botanique du piment, capsicum, du latin capsa, fait référence à sa forme d'étui où se trouvent les graines. La sensation de brûlure provoquée par les piments provient d'un composé, la capsaïcine, très présent dans les piments forts et quasi absent des poivrons. Cette molécule est un composé chimique de type alcaloïde qui s'accumule sur le placenta du fruit où sont insérées les graines. Et ses particularités sont étonnantes. La capsaïcine va en effet stimuler les mêmes récepteurs que ceux qui réagissent à la chaleur. Ces récepteurs, qui portent le nom de récepteurs vanilloïdes, ou TRPV, pour Transient Receptor Potential Vanilloid, si vous souhaitez impressionner votre auditoire, n'est-ce pas ? Sont situés sur les muqueuses buccales. Ces derniers s'activent en temps normal lorsqu'ils sont soumis à une température supérieure à 44 degrés centigrades, ou à des substances très acides, avec un pH trop bas. Il déclenche alors un signal nerveux qui est interprété par notre cerveau comme une information douloureuse, qui se traduit immédiatement par une sensation de brûlure. La capsaïcine a la particularité de pouvoir activer ses récepteurs, qui vont alors se comporter comme s'ils étaient en présence d'un objet brûlant ou beaucoup trop acide. Et bien que la capsaïcine, même à forte dose, n'occasionne aucune blessure, lésion ni plaie dans la bouche, elle déclenche malgré tout les signaux d'alerte correspondant à un tel danger. La capsaïcine a également une action congestionnante, provoquant un afflux de sang et donc une suroxygénation des tissus à son contact. Cette propriété est notamment utilisée dans les onguents destinés aux sportifs afin de réchauffer les muscles avant l'effort ou en cataplasme contre le torticolis et autres contractures locales. Le piment est en revanche déconseillé aux personnes à l'estomac fragile et à celles sujettes aux crises hémorroïdaires. D'autre part, la capsaïcine est utilisée par l'industrie pharmaceutique pour le traitement des douleurs chroniques neuropathiques. La sécrétion de cette substance est sans doute liée à une stratégie de survie de la plante. En effet, seuls les mammifères sont sensibles à la capsaïcine, ce qui les dissuaderait d'ingérer les graines. En effet, le système digestif des mammifères est susceptible de leur ôter leur pouvoir germinatif. au contraire de celui des oiseaux qui, en les ingérant, contribuent à leur dissémination dans leur déjection. En effet, les volatiles ne sont pas sensibles, eux, au stimulus de la capsaïcine. Le fait que vous ne risquez rien de plus qu'une importante sudation et une toux n'est toutefois qu'une maigre consolation lorsque vous avez l'impression d'avoir un véritable brasier dans la bouche. Vous l'avez sans doute constaté, boire de l'eau ne fait pas passer la sensation de brûlure.
Non, plutôt du pain et du lait, effectivement, donc avec modération si on veut en mettre dans la soupe. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Ah ouais. Merci Co, merci Olivier et merci bien sûr à Jean-Sébastien Liberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Bonne semaine, à mardi prochain.
À bientôt. Ouais.